jusqu'à maintenant.
Peut-être qu'on ira à côté.
La rubrique « Je pense à vous ». Cette fois-ci, dans le même ordre, la première fois, donc nous avons vu tout d'abord que Dieu se révèle en donnant un cœur nouveau, celui que nous avons reçu au baptême, et celui qui ensuite, tout au long de notre vie chrétienne, va s'exercer dans la foi, la charité et l'espérance, comme toute vertu humaine, elle est donnée, et comme toute vertu humaine, elle doit s'exercer pour se déployer, pour se révéler à nous tout d'abord, et se déployer dans nos vies. Ce cœur nouveau est comme un capital, on pourrait dire, qui a fructifié, si vous voulez, votre vie. Voilà, et alors comment va-t-il grandir, s'exercer, et donc en posant des actes de foi, de charité et d'espérance, notamment en se nourrissant de la parole qui nous engendre, qui nous enfante à cette vie nouvelle. Et ce n'est pas magique, cette vie nouvelle, elle s'engendre en nous précisément par ce que nous décidons, ce que nous faisons, à la lumière de ce que nous recevons dans ce cœur nouveau. Ça passe toujours par notre liberté et notre agir. Je crois qu'un grand père de l'Église, enfin un grand père de l'Église, Grégoire de Nice dit nous sommes à nous-mêmes comme nos propres, nous sommes pour nous-mêmes comme nos propres parents, nous nous enfantons par nos actes, par nos choix, par nos actes. Et c'est en fait par ce cœur nouveau et par la parole de Dieu que nous nous sommes rendus capables de faire des choix et de poser des actes que nous n'aurions pas posés, des choix que nous n'aurions pas faits sans ce cœur nouveau, sans cette parole. Mais ce sont nos actes et nos choix qui nous font grandir, qui nous font avancer. La liberté humaine n'est pas un accessoire au déploiement de la révélation divine en nous, au cœur de cette révélation. Alors cette parole donc, qui est une semence non pas périssable, comme dit la première Pierre, mais une semence impérissable qui nous engendre à cette vie nouvelle, cet amour nouveau, eh bien cette parole, elle nous est donnée dans une lettre, dans un écrit, et nous avons vu que cette lettre de la parole de Dieu, l'écriture, le texte de l'écriture, était écrite donc par des auteurs divins, multiples, sur une période de 1000 ans quasiment, et que Dieu parlait par ses auteurs humains. Il fallait trouver ce que voulaient dire les auteurs humains pour comprendre, pour connaître ce que veut nous dire Dieu. De la nécessité, du coup, non pas d'ordre universitaire ou de curiosité intellectuelle, mais d'une nécessité pour notre quête spirituelle de rencontrer Dieu, d'étudier les Écritures, hein, de les lire, d'essayer de comprendre, de comprendre le texte. Je ne sais pas, si votre fils vous écrivait une lettre importante, votre fille vous écrivait une lettre importante, longue, vous mettriez toute votre énergie à la comprendre et à comprendre ce qu'il y a derrière les mots et à essayer de la rejoindre en quelque sorte à travers cette lettre. Et on ne vous dirait pas de vous que vous êtes un intellectuel, un intello, qui fait des études de sexe, et que voilà, c'est déplacé dans votre amour pour votre fille. Non, on louerait au contraire votre ténacité à vouloir la rejoindre par cet écrit. De même, pour les Écritures, il faut chasser les derniers miasmes d'un faux jugement de l'investissement intellectuel dans les textes qui n'appartiennent pas d'abord au monde universitaire, mais qui doivent d'abord appartenir au cœur aimant, le nôtre, qui cherche son Dieu. C'est de l'ordre de l'amour de comprendre l'autre. Ce n'est pas d'abord de l'ordre de la connaissance universitaire, c'est de l'ordre de l'amour. Et ça mobilise, c'est vrai, notre intelligence, des efforts, du travail. Et c'est pour l'amour, c'est vraiment pas autre chose. Et donc, scruter la lettre, connaître la lettre de l'esprit, ce que dit le texte, pour rejoindre ce que dit Dieu au-delà de ce que j'en sais déjà et que je vais tenter de plaquer en quelque sorte sur les textes facilement, ou de sortir quelques concepts habituels dont je suis moi-même assez lassé, mais dont j'ai du mal à me sortir. Et en s'attachant à la lettre, du coup, je vais rencontrer la parole que j'attends pas, et même la personne que je n'attends pas, Dieu lui-même. Dans cette lettre de la parole, traduit ensuite dans la troisième séance, elle était un dialogue entre l'Ancien et le Nouveau Testament, qui sont tous deux paroles de Dieu, et que le Nouveau Testament, dans la personne de Jésus, accomplit toutes les promesses des prophètes, mais surtout nous donne le pied de lecture, un éclairage sur ses propres prophéties, et fait de ces prophéties, du coup, une nourriture christique, c'est-à-dire que un chrétien lit Ézéchiel, lit Isaïe, lit Jérémie, en tant que chrétien. Il ne fait pas il ne plaquerait pas de poncif chrétien sur un texte de l'Ancien Testament, mais la lumière de l'Esprit Saint, ce qu'il connaît de Jésus et de ce qu'il a accompli de ses écritures dans sa vie, nous donne un éclairage totalement nouveau sur l'Ancien Testament, qui devient lui-même, du coup, une nourriture pour connaître davantage le Christ. C'est une sorte de sa boucle. L'exemple est très fort des oracles du serviteur souffrant. Ce n'est pas son péché qui portait, mais nos péchés dans ses blessures, nous avons été guéris. Quand on connaît la passion, on la vit dans l'Eucharistie, on lit cette oracle du serviteur souffrant dans l'Eucharistie, ils sont totalement renouvelés. Alors, un autre dialogue s'ouvre. C'est après celui de l'Ancien et Nouveau Testament, c'est celui de l'Écriture et de la Tradition, c'est celui que nous avons vu donc, la fois dernière. Et donc nous avons découvert ensemble que la parole de Dieu n'était pas un don soi, la parole est donnée à un peuple, au peuple juif, au peuple d'Israël. Et ce peuple juif, il porte cette parole et il a. Il est héritier de cette parole par l'action de Dieu dans l'histoire d'Israël. C'est parce que Dieu a agi pour son peuple que par la bouche de ses prophètes, de ses patriarches, Israël en a fait mémoire par écrit, dans oral d'abord, puis écrit. Donc cette tradition, elle appartient déjà à Israël, c'est-à-dire la transmission des événements, la mémoire des événements, notamment l'événement de l'Exode, et la mémoire aussi de ce que les anciens ont dit de cette mémoire de l'Exode, et aussi de ce que nous vivons aujourd'hui qui éclaire d'un jour nouveau ce que nous avons vécu dans l'Exode. Notamment l'exil à Babylone pour les Juifs, qui va leur donner de relire l'Exode de manière tout à fait renouvelée, ainsi que la refondation de Jérusalem. Et donc cette espèce de dynamisme de tradition qui s'enrichit tout en restant fidèle à ce qui a été donné au départ, c'est ce que j'appelle le déploiement. Alors le déploiement va trouver son apogée dans la personne de Jésus, mais va se poursuivre comme le bouton de rose qui n'en finit pas de s'ouvrir, vous vous souvenez, va se poursuivre après Jésus et va se donner à connaître davantage. Tout est dans le petit bouton vert, le petit bouton rose, mais évidemment la rose est très différente du petit bouton vert. Alors aujourd'hui, on va avoir un autre dialogue encore, ce sera le dernier. On comprend que cette parole, ce n'est pas si simple, c'est pas un SMS, elle est à saisir dans ses écritures, je vous donne là. Et cette fois-ci, c'est entre les paroles et les événements. Alors, pour cela, nous allons reprendre notre écriture ancienne. Bien sûr, et puis si on replonge dans notre cher concile, au début de la constitution des Hébreux, c'est la dernière visite que les Hébreux, la prochaine, nous passerons dans notre constitution. Donc, pour le temps, je vais vous dire. Et voilà, donc vous avez deux sources, trois petits textes, deux questions, et puis donc le numéro 2, le deuxième paragraphe de Gellerbaum sur la nature de la révélation divine, comment Dieu se révèle à nous. Alors on a déjà beaucoup d'éléments, bien sûr, qu'on a reçus, et le dernier qu'on va recevoir aujourd'hui, donc la parole, on sait ce qu'il y a de la parole, et puis les éléments, l'action de Dieu, l'œuvre de Dieu. On va creuser un petit peu.